Chapitre 37. Ce qui pourrait être. Même si Juin semblait pressé de laisser le portail derrière lui, Alar imposa à la petite colonne un pas lent et digne. Matt semblait pressé de passer à la suite, où Rin affichait une confiance de bonne aloi, et Loyal devait sûrement s'inquiéter qu'Alar change de sujet à son avis, le reste passant au second plan. Tenant Rouquin par la longe, Rand n'avait aucune hâte d'arriver à destination. Sauf erreur de sa part, Vérine n'avait pas l'intention d'utiliser elle-même l'artefact. La pierre portail grise se dressait au pied d'un hêtre au tronc imposant qui culminait à quelques 100 pieds de hauteur. S'il n'en avait pas vu plusieurs, Rand aurait pu le prendre pour un grand arbre, mais là... Aucun muret n'empêchait d'approcher de l'artefact entouré d'un cercle de fleurs sauvages des plus naturelles. Si la surface de la colonne avait souffert des intempéries, les symboles gravés dessus restaient cependant identifiables. Les cavaliers du Chiennard formèrent un cercle défensif autour de la pierre portail et de leurs compagnons à pied.
« Nous l'avons découverte il y a des années, » dit Alar. « Et aussitôt redressée, mais sans la déplacer parce qu'elle résiste, dès qu'on essaie, semble-t-il. »
Elle avança et posa sa grande main sur la pierre.
« Pour moi, c'est un symbole de ce qui a été perdu et oublié. Durant l'âge des légendes, cet artefact pouvait être étudié et compris, au moins dans une certaine mesure. Pour nous, ce n'est qu'une colonne de pierre.
« J'espère qu'il en ira autrement pour nous, »
dit Vérine d'un ton sec.
« Merci de ton aide, doyenne. Pardonne-nous de te quitter si abruptement, mais la roue n'attend personne, tu le sais mieux que quiconque. Au moins, nous ne sèmerons plus le désordre dans ton sanctuaire. »«
Nous avons rappelé tous les maçons qui travaillaient à Caerienne, »
dit Alar.
Mais ça ne nous empêche pas de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Les faux dragons, la grande quête du corps. Nous entendons parler des événements, mais ils ne nous affectent pas. Je doute qu'il en aille de même avec Tarmon Gaidon. Porte-toi bien, Vérine Sedai. Bonne chance à tous, et puisse le Créateur vous abriter dans le creux de sa main. Juin, nous partons.
Alar prit le temps de regarder une dernière fois Loyal, et ensuite Rand, comme si elle voulait lui rappeler sa promesse. Puis Juin et elle s'éloignèrent et disparurent bientôt entre les arbres. Un concert de grincements de cuir indiquait que les cavaliers s'agitaient nerveusement sur leurs selles.
« Est-ce indispensable, Vérine Sedai ?»
demanda Ingtar, se faisant le porte-parole de ses hommes.
« En supposant que nous réussissions, comment être sûr que les suppôts ont emporté le corps sur la pointe de Toman ? Je reste convaincu de pouvoir faire parler Bartan. »
En l'absence de certitude,
dit Vérine.
La pointe de Toman est un très bon endroit où chercher. Ne t'ai-je pas entendu jurer que tu irais jusque dans les entrailles du mont Shayalghul pour retrouver le corps? Reculerais-tu devant cet obstacle?
Elle désigna la colonne dressée au pied du grand hêtre.
Je ne recule devant rien,
se défendit l'officier.
Conduis-nous sur la pointe de Toman ou au mont Shayalghul, si ça te chante. Pourvu que le corps de Valère m'y attende, j'irai jusqu'au bout du monde.
Voilà qui est bien parlé.
Vérine se tourna vers Rand.
Tu as voyagé plus récemment que moi grâce à une pierre portail. Approche, mon garçon.
Rand obéit, tenant Rouquin par la main.
Vous avez utilisé une pierre portail ?
Le jeune homme regarda derrière lui pour s'assurer que les autres ne l'entendaient pas.
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de mes services.
Je n'ai jamais voyagé ainsi. Voilà pourquoi ton expérience est nécessairement plus récente que la mienne. Rand, je suis consciente de mes limites. Si je tentais de canaliser le pouvoir requis pour un tel voyage, je serais carbonisé sur place. Cela dit, j'en sais assez long sur les pierres portails pour être utile. Au minimum, au moins.
« Moi, je ne sais rien sur ces artefacts !»
s'écria Rand. Sans lâcher son cheval, il fit le tour de la pierre.
« Je me souviens d'une seule chose. Le symbole qui représente notre monde. Célène me l'a montré. Je ne le vois pas ici. »«
Bien sûr que non !» Que ferait-il sur une pierre portail qui se dresse dans notre monde? Ces cryptogrammes sont un moyen d'accéder à un endroit. Quel idiot voudrait voyager jusqu'au lieu où il est déjà?
L'Aes Sedai soupira à Pierre Fendre.
Je donnerais cher pour parler avec ton amie Célène. Ou mieux encore, pour consulter son livre. Les érudits pensent qu'aucun exemplaire de miroir et reflet de la roue n'est sorti intact de la dislocation. Séraphel m'a souvent dit que des centaines d'ouvrages prétendument perdus attendaient d'être découverts. Bon. Inutile de pleurer sur des informations que je ne détiens pas. Je sais quand même pas mal de choses. Les symboles qui représentent des mondes figurent sur la moitié supérieure du monolithe. On n'y trouve pas la totalité des mondes qui pourraient être, bien sûr. Selon les Aes Sedai de l'âge des légendes, toutes les pierres ne donnent pas accès à l'ensemble des destinations. Et certaines de celles-ci, des univers potentiels toujours, ne sont peut-être reliées à aucun artefact. Vois-tu quelque chose qui éveille en toi un souvenir ?
Non, rien.
À voix rande. S'il repérait le bon cryptogramme, il pourrait trouver Fane, sauver Matt et épargner bien des malheurs à Champ des Mondes. Mais pour ça, il lui faudrait une nouvelle fois entrer en contact avec le Saïdin. S'il désirait secourir Matt et vaincre Fane, il n'avait aucune envie d'affronter le Saïdin. Canaliser le pouvoir le terrorisait. En même temps, il en rêvait comme un homme affamé peut rêver à un festin.
« Je ne reconnais rien, »
soupira-t-il.
Sur l'autre moitié de la pierre, les symboles représentent tous les artefacts existants. Si tu savais comment ça fonctionne, tu pourrais nous conduire ailleurs que devant cette même pierre, mais dans un monde différent. En d'autres termes, nous nous retrouverions ailleurs qu'ici, par exemple beaucoup plus près de la pointe d'Ottomane. C'est un phénomène très semblable à ce que nous appelions jadis le voyage. Hélas, les Aes Sedai ont perdu ce secret parmi tant d'autres. Pareillement, plus personne ne sait utiliser correctement une pierre portail. Si nous procédons à l'aveuglette, nous pourrions bien y laisser la vie. »
Vérine désigna deux lignes ondulées parallèles barrées par un étrange dessin qui évoquait irrésistiblement un gribouillis.
« Ce symbole signale une pierre portail présente sur la pointe d'Ottomane. C'est une des trois seules pierres que je puisse reconnaître, et la seule que j'ai vue de mes yeux. Pour ça, j'ai failli être coincé par la neige dans les montagnes de la brume, puis j'ai failli crever de froid dans la plaine d'Almot. Et pour apprendre quoi ? Absolument rien. Randaltor, joues-tu au dé ou aux cartes ?»«
Le flambeur, c'est Matt. Pourquoi cette question ?»«
Matt Il vaut mieux le laisser à l'écart de tout ça, je crois. Voici les autres symboles que je connais. »
Du bout d'un doigt, Vérine suivit les contours d'un rectangle qui contenait 8 sculptures. Toutes se ressemblaient, un cercle et une flèche. Mais pour une moitié d'entre elles, la flèche était contenue par le cercle. Pour l'autre, la pointe du projectile transperçait son cadre. Les flèches indiquaient la droite, la gauche, le haut ou le bas. Autour de chaque cercle figurait une inscription rédigée dans une langue que Rand ne connaissait pas. Une écriture faite d'une alternance de lignes incurvées et de croches irrégulières.
Voici ce que je sais sur ces symboles. Chacun représente un monde dont l'étude conduisit jadis à la création des chemins. D'autres mondes servirent de modèle, mais j'ignore par quoi ils sont représentés. Tu me suis ? C'est là qu'un joueur sera utile. J'ignore à quoi ressemblent ces mondes, Rand. Dans certains, une année doit correspondre à une journée ici, et dans d'autres, ça doit être exactement l'inverse. Il doit y avoir des mondes où l'air seul est assez toxique pour nous tuer, et d'autres qui sont à peine assez réels pour tenir debout. Tu vas choisir, Rand. Comme aurait dit mon père, il est temps de jeter les dés.
La moindre erreur de ma part risque de nous être fatale.
Tu refuses de prendre ce risque, même pour le corps de Valère et pour Matt ?
Pourquoi êtes-vous pressé de jouer à qui tout double ? Je ne suis même pas sûr de pouvoir réussir. Parce que ça ne fonctionne pas à tous les coups.
Même si personne ne s'était approché, Rand regarda une nouvelle fois autour de lui. Tous les regards étaient rivés sur la pierre, mais ses compagnons étaient trop loin pour l'entendre.
Parfois, le Saïdin est là, tout simplement. Mais il pourrait tout aussi bien être sur la lune, parce que je ne parviens pas à le toucher. Et même en supposant que je réussisse, qu'arrivera-t-il si je nous transporte dans un endroit où nous ne pourrons pas respirer ? Quel bien cela fera-t-il à Matt, voire au corps ?
Tu es le dragon réincarné. Tu peux mourir, bien sûr, mais je doute que la trame te laisse quitter la vie avant d'en avoir fini avec toi. De plus, les ténèbres s'étendent sur le lacis, désormais. Et qui peut dire comment ça affecte le tissage ? Tu n'as qu'une solution. Suivre ta destinée.
Je suis Rand Altor, pas le dragon réincarné. Je ne serai pas un faux dragon.
Tu es ce que tu es. Vas-tu jeter les dés ou attendre ici que ton ami meure ?
Entendant ses dents grincer, Rand se força à desserrer la mâchoire. À ses yeux, tous ses symboles étaient identiques et les inscriptions ressemblaient à des traces de serre de coq. Puisqu'il fallait choisir, il opta pour une gravure où la flèche désignait la gauche, soit la direction de la pointe d'Ottomane. La pointe transperçait le cercle, sans doute parce que c'était une assez bonne représentation du désir de liberté qu'il éprouvait. Rand eut envie de rire nerveusement. Jouer leur vie sur des éléments si insignifiants.
« Approchez !»
ordonna Vérine aux autres voyageurs en puissance.
« Ce sera plus facile si vous êtes à côté de nous. Bien, à présent, il est temps de commencer.
Vérine écarta sa cape et posa les mains bien à plat sur la colonne. Mais Rand vit qu'elle le regardait du coin de l'œil. Il entendit les soldats se racler la gorge, Uno injurier un homme qui refusait d'approcher, et Matt lancer une plaisanterie douteuse qui ne fit rire personne. Alors que Loyal laissait échapper un petit cri, Rand invoqua le vide. Tout se passa très facilement. La flamme de la bougie imaginaire consuma sa peur et ses autres sentiments. Puis elle se volatilisa, cédant la place au cocon et à la lueur maladive du Saïdin. À la fois séduit et révulsé, Rand appela à lui la force souillée et la laissa l'envahir comme une marée tumultueuse. Alors qu'il était immobile tel une statue, il se sentit vivant et libre comme jamais. Le symbole apparut devant son œil mental. Un cercle percé d'une flèche. Rand laissa le pouvoir de l'unique se déverser dans cette énigmatique représentation. L'image scintilla et ondula.
« Ça commence !»
dit Vérine.
« Mais quelque chose !»
Le monde flamboya. La porte explosa. Les pièces métalliques du verrou venant s'écraser sur le sol. Une silhouette se découpa sur le seuil de la maison. Un géant vêtu d'une cotte de mailles qui lui tombait jusqu'aux genoux, des pics hérissant ses épaules, ses poignets et ses coudes. Soudain, Rand vit les étranges cornes de bélier qui surplombaient la tête de l'intrus, touchant presque le cadre de la porte. Là où auraient dû se trouver un nez et une bouche, un museau poilu s'ouvrait sur des crocs acérés.
« File d'ici, mon garçon !»
cria Tam.
« Et cache-toi dans les bois !»
Il frappa le monstre avec son épée, le blessant sûrement à mort. Mais le Trolloc s'agrippa à lui, l'entraînant dans sa chute. D'autres créatures de cauchemar entrèrent, leur visage humain affublé d'un museau ou d'un bec exprimant une haine sans borne. Alors que Tam tentait de se redresser, tous le frappèrent avec leur bizarre épée incurvée.
« Papa !»
cria Rand. Dégainant son couteau de chasse, il bondit par-dessus la table pour voler au secours de son père et hurla de douleur quand la première lame lui transperça la poitrine. Alors que des bulles de sang se formaient dans sa bouche, une voix murmura dans sa tête.
« J'ai encore gagné, Loustérine. »
Le monde flamboya. Alors qu'il luttait pour maintenir l'image du symbole, Rand entendit très vaguement la voix de Vérine.
« N'est pas... »
Le monde flamboya. Rand connut le bonheur après avoir épousé Egwen. Même lorsqu'il pensait qu'il aurait dû y avoir quelque chose de plus dans sa vie, quelque chose de différent, il tentait de ne pas se laisser submerger par ce qu'il appelait sa mauvaise humeur. Grâce aux colporteurs et aux marchands, venus acheter de la laine et du tabac, des nouvelles du grand monde atteignaient régulièrement le territoire de Deux-Rivières. Des histoires d'émeutes, de guerres et de faux dragons grouillant un peu partout dans les royaumes. Une année, personne ne vint. Celle d'après, les colporteurs et les marchands rapportèrent que les guerriers des armées d'Arthur et de Faucon, enfin leurs descendants plutôt, étaient revenus. Les anciennes nations se désintégraient, et les nouveaux maîtres du monde, qui utilisaient sur le champ de bataille des Aes Sedai enchaînés, avaient rasé la Tour Blanche et Tarvalon, salant le sol où s'était dressée la cité afin que rien n'y repousse. Aucune Aes Sedai de la Tour n'avait survécu. Pour dramatique qu'elle soit, ces nouvelles ne changèrent pas grand-chose à Champ des Mondes. Il fallait toujours se charger des semailles, tondre les moutons et s'occuper des agneaux de l'année. Avant d'aller s'étendre sous la terre près de sa femme, Tam eut le plaisir de faire sauter sur ses genoux de merveilleux petits-enfants, et sa vieille ferme s'agrandit en même temps que la famille. Egwen devint sage d'âme, et beaucoup de villageois pensèrent qu'elle était encore meilleure que Ninevé et Almehara, qu'elle était destinée à remplacer depuis des lustres. Ses compétences ne se révélèrent pas superflues. Alors que ses potions faisaient des miracles sur tout le monde, elle parvenait de justesse à combattre les maladies qui s'attaquaient sans cesse à Rand, le menaçant d'une fin précoce. Au fil du temps, sa mauvaise humeur devint de la rage, et il prit l'habitude de répéter que sa vie n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Egwen commença à avoir peur, car lors des crises de fureur de son mari, d'étranges phénomènes se produisaient. Des orages qu'elle n'avait pas entendus dans le vent, des feux de forêt et d'autres catastrophes. Aimant son époux, elle continua de le soigner et l'empêcha de sombrer dans la folie, même si beaucoup de villageois murmuraient qu'il était dérangé et dangereux. Quand Egwen mourut, Rand resta assis des heures devant sa tombe, sa longue barbe grisonnante imbibée de larmes. Son affection revenant à l'assaut, il perdit l'annulaire et l'auriculaire de la main droite et le majeur de la gauche. Ses oreilles commencèrent à ressembler à des plaies infectées, et on murmura qu'il émanait de lui une odeur de pourri. son humeur devint encore plus sombre. Pourtant, lorsqu'arrivèrent les terribles nouvelles, tous ses concitoyens acceptèrent qu'il parte en guerre à leur côté. Des trollocs, des blafards et des abominations innommables étaient sortis de la flétrissure. Malgré toute leur puissance, les nouveaux maîtres du monde, submergés, risquaient d'être impitoyablement rejetés à la mer. Rand prit son arc. Il lui restait juste assez de doigts pour s'en servir. Puis boitilla en direction de la rivière Tarenne, en compagnie d'hommes venus de tous les villages et de toutes les fermes isolées de deux rivières. Alors que ses compagnons partaient au combat avec tous les arcs, toutes les haches, les piques à sangliers et les rapières qu'ils avaient pu trouver, Rand portait sur la hanche gauche une épée ornée d'un héron. Une arme découverte dans les effets personnels de Tam, après sa mort, et dont il ne savait absolument pas se servir. Armés de tout ce qui leur était tombé sous la main, des femmes accompagnèrent leurs maris. Certaines, en plaisantant à demi, avouèrent avoir l'étrange sentiment de s'être déjà comportées ainsi dans une vie antérieure. Sur la berge nord de la Tarenne, les défenseurs de deux rivières se retrouvèrent face à une horde de trollocs et d'autres monstres dirigés par des blafards, et prêts à combattre jusqu'à la mort pour la gloire d'un étendard si noir qu'il semblait dévorer la lumière. Dès qu'il vit cet étendard, Rand pensa que la folie s'emparait de nouveau de lui, car il eut le sentiment d'être né pour affronter cet obscur drapeau. Il décocha dessus toutes ses flèches, faisant mouche avec l'aide de la flamme et du vide, et ne prêta pas une once d'attention aux trollocs qui traversaient la rivière, ni aux hommes et aux femmes qui tombaient autour de lui. Au passage, avant d'aller semer la terreur et la mort plus loin, un des monstres transperça avec son épée la poitrine du vieil homme qui était devenu Rand. Alors qu'il gisait non loin de l'eau, regardant le ciel qui semblait s'obscurcir à midi, le moribond entendit une voix souffler dans sa tête.
« J'ai encore gagné, Loustérine. »
Le monde flamboya. La flèche et le cercle se brouillèrent, devenant deux lignes ondulées parallèles. Rand lutta pour amener l'image devant ses yeux.
« Normal, »
dit la voix de Vérine.
« Quelque chose. »
Le pouvoir se déchaîna. Le monde flamboya. Quand Egwene tomba malade et mourut, une semaine avant la date prévue pour le mariage, Tam fit tout son possible pour consoler Rand. Ninevé essaya aussi, mais elle était trop bouleversée pour réussir. Malgré toutes ses compétences, elle n'aurait su dire de quoi était morte la jeune femme, et tant d'ignorance la minait. Rand était resté devant la demeure d'Egwene durant son agonie. Où qu'il aille au village, lui semblait-il, il entendrait toujours les cris de sa pauvre petite fiancée. Dans ces conditions, rester était impossible. Tam offrit à son épée une épée au héron. Sans expliquer comment un berger de deux rivières pouvait être en possession d'une telle arme, il apprit à Rand les subtilités de l'escrime. Le jour du départ du jeune homme, il lui remit une lettre qui lui permettrait de se faire engager dans l'armée ilianienne. Étreignant le jeune homme, il lui souffla quelques mots à l'oreille.
« Je n'ai pas eu d'autre fils, et je ne l'ai jamais regretté. Si tu peux, reviens avec une épouse, comme je l'ai fait. Mais reviens dans tous les cas. »
Hélas, Rand se fit détrousser à Berlone, perdant tout son argent et sa lettre d'introduction. Par miracle, il réussit cependant à conserver son épée. Toujours à Berlone, il rencontra une femme nommée Mine. Terrorisé par les absurdités qu'elle lui raconta, des énormités sur son passé et son avenir, il quitta la ville à la hâte et se retrouva à Kemlin. Remarqué pour son habileté à l'épée, il put s'enrôler dans la garde royale. De temps en temps, en particulier lorsqu'il apercevait Elaine, la fille héritière, le jeune homme éprouvait l'étrange sentiment que les choses n'auraient pas dû se passer ainsi dans sa vie. En d'autres termes, qu'il aurait dû avoir un destin plus glorieux. Bien entendu, Elaine ne s'aperçut même pas de son existence. Bientôt mariée à un prince de Théar, elle ne sembla pas très heureuse. Mais comment aurait-elle pu s'intéresser à un soldat venu d'un lointain village de deux rivières, un territoire si lointain sur la frontière occidentale qu'on aurait facilement pu oublier qu'il appartenait au royaume d'Andorre? De plus, il avait l'exécrable réputation d'être un homme sujet à d'inexplicables crises de fureur. On murmurait qu'il était fou. En temps normal, même ses talents d'escrimeur n'auraient pas suffi à lui épargner d'être chassé de la garde. Mais les temps n'avaient rien de normal. Partout, les faux dragons poussaient comme la mauvaise herbe. Chaque fois qu'on en neutralisait un, deux autres apparaissaient pour reprendre le flambeau. Du coup, presque toutes les nations étaient déchirées par une guerre civile. Dans cette atmosphère de fin du monde, l'étoile de Rand brilla de plus en plus fort, car il avait découvert la raison de sa folie. Un secret qu'il gardait pour lui-même, bien entendu. Rand Altor était capable de canaliser le pouvoir. et sur un champ de bataille, il y avait toujours un moment où une petite intervention surnaturelle, pas assez spectaculaire pour être remarquée, changeait beaucoup de choses. Le pouvoir ne répondait pas toujours présent, il fallait le reconnaître. Mais quand c'était le cas, le résultat en valait la peine. Conscient d'être fou allié, Rand n'en avait rien à faire. Pareillement, lorsqu'il fut frappé d'une maladie dégénérative, cela ne le perturba pas le moins du monde. À vrai dire, ça ne déconcerta personne, parce qu'on venait d'apprendre que les armées d'Arthur Aldefaucon, en fin de retour, réclamaient ce qui leur était dû, à savoir l'ancien empire du souverain. Lorsque la garde traversa les montagnes de la brume, Rand dirigeait un millier d'hommes. À aucun moment il ne pensa à faire un détour pour aller revoir de rivière, car il ne pensait presque plus à son territoire natal. Lorsque les vestiges de la garde retraversèrent les montagnes, il en prit le commandement et, au milieu d'une foule de réfugiés, bâtit en retraite sur toute la longueur du royaume d'Andorre. De retour à Kemlin, il découvrit qu'une partie des habitants avait pris la fuite. En toute logique, l'armée aurait dû faire de même, mais Elaine, désormais couronnée, refusait catégoriquement d'abandonner sa capitale. Conscient qu'une reine n'accorderait jamais l'ombre d'un regard à un homme ravagé par la maladie, Rand ne put pourtant pas se résigner à la laisser. Alors que l'exode continuait, ses hommes et lui se préparèrent à défendre la souveraine jusqu'à leur dernier souffle. Durant la bataille de Kemlin, le pouvoir répondit à l'appel de Rand. Alors qu'il bombardait les envahisseurs d'éclairs et de flammes, faisant s'ouvrir le sol sous leurs pieds, il eut de nouveau l'étrange sentiment d'être né pour un autre destin que celui-là. Car malgré tous ses efforts, l'ennemi était trop puissant, d'autant plus qu'il disposait lui aussi de l'aide du pouvoir. Un éclair finit par frapper Rand, qui bascula du mur du palais et tomba dans le vide, brûlé de l'intérieur et ensanglanté. Alors qu'il exhalait le dernier soupir, il entendit une voix murmurer dans sa tête.
« J'ai encore gagné, Lousterine. » Le monde flamboya.
Rand luttait pour aider le vide à repousser les assauts furieux du monde qui flamboyait, menaçant de le consumer en un éclair. Des milliers de symboles tourbillonnaient devant ses yeux, tandis qu'il tentait de ne pas perdre de vue le seul qui fut vraiment important.
« Ne va pas !»
cria Vérine. Le pouvoir envahissait tout.
Le monde flamboya, 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 flamboya.
Rand fut soldat, berger, mendiant et roi. Il connut aussi l'existence d'un paysan, d'un trouvère, d'un marin et d'un charpentier. Il naquit, vécut et mourut dans la peau d'un aïeul. Il quitta ce monde fou allié, pourri de l'intérieur, rongé par la maladie, fauché par un accident ou lentement détruit par l'âge. Il fut exécuté et la foule se réjouit de son calvaire. Il affirma être le dragon réincarné et son étendard bâti au vent à la tête d'une armée. Il résolut de fuir le pouvoir et se cacha. Il vécut et mourut sans jamais rien savoir sur lui-même. Il contint la folie et la maladie pendant des années. Il succomba en quelques mois. Certaines fois, Moiraine vint à Champ-des-Mondes et l'entraîna loin du territoire, parfois seul et parfois avec ceux de ses amis qui n'étaient pas morts durant la nuit de l'hiver. Mais il arriva aussi que Moiraine ne se montre pas. D'autres Aes Sedai vinrent à l'occasion le chercher, y compris des membres de l'Âge à Rouge. Egwene l'épousa. Le visage de marbre, l'étole de la chair d'Amirline sur les épaules, Egwene dirigea en personne les Aes Sedai qui l'apaisèrent. Des larmes dans les yeux, Egwene lui plongea une dague dans le cœur et il mourut en la remerciant. Il aima et épousa d'autres femmes, Elaine, Min, et la fille aux cheveux blonds d'un fermier qu'il avait rencontré sur la route de Kemlin. Il connut aussi l'amour avec des femmes qu'il n'avait jamais vues avant d'être précipité dans cette multitude de vies. Une centaine d'existences, plus peut-être. Au point qu'il ne parvenait plus à les compter. Et à la fin de chacune, alors qu'il agonisait, poussant le dernier soupir, une voix murmurait dans sa tête.
« J'ai encore gagné, Lousterine. »
Et le monde flamboyait, 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 flamboyait. Le vide disparut. Le contact avec le Saïdin fut rompu, et Rand s'écroula, l'impact contre le sol assez rude pour lui couper le souffle, s'il n'avait pas été à demi engourdi en tout cas. Sous sa joue, il sentit une surface rugueuse et froide qui devait être de la pierre. Il aperçut Vérine qui luttait pour se relever et réussit à se mettre à quatre pattes. Entendant quelqu'un vomir, il leva la tête et vit Kuno, agenouillé, se nettoyait la bouche d'un revers de la main. Tous les bipèdes étaient tombés, et les chevaux, pétrifiés de terreur, roulaient des yeux ronds comme des soucoupes. À demi relevé, Ingtar avait dégainé son épée, la serrant si fort que la lame tremblait tandis qu'il fixait le vide, l'air absent. Assis là où il était tombé, Loyal semblait avoir oublié jusqu'à son nom. Matt était roulé en boule, un bras enroulé autour de la tête, et Perrine avait enfoncé les doigts dans ses yeux, comme s'il voulait en arracher les horreurs qu'il avait vues, ou peut-être même se débarrasser des globes oculaires sur lesquels elles s'étaient imprimées. Les soldats n'étaient pas en meilleur état. Massema pleurait comme un gamin, et Ourine regardait autour de lui, à la recherche d'un endroit où se cacher, eut-on dit.
« Que ?»
commença Rand. Il dut s'interrompre pour déglutir. Il gisait sur une pierre dévastée par les intempéries et plus qu'aux trois quarts enfouie sous la terre.
« Qu'est-il arrivé ?»«
Une surcharge de pouvoir, »
répondit Verin en se relevant. Les jambes mal assurées, elle resserra frileusement sur son torse les pans de sa cape.
« Nous étions comme poussés par un vent fou furieux jailli de nulle part. Rand, tu dois apprendre à contrôler le pouvoir. Un tel déchaînement risque de te réduire en cendres un de ces jours. »
« Verin, j'ai vécu. J'étais... »
Rand comprit enfin qu'il reposait sur une pierre portail enterrée. Comme si son contact le brûlait, il se releva d'un bond.
« Verin, j'ai vécu et je suis mort un nombre incalculable de fois. Chaque existence était différente. Mais il s'agissait bien de moi. Oui, de moi.
Les lignes qui relient les mondes qui pourraient être, tracées par ceux qui connaissent les nombres du chaos. »
murmura Verin, parlant toute seule.
Je n'ai jamais entendu mentionner cette possibilité. Mais pourquoi ne serions-nous pas nés dans chacun de ces mondes pour y mener une vie différente? Puisque les événements n'y sont pas identiques, pourquoi nos existences ne divergeraient-elles pas, elles aussi?
C'est ce qui m'est arrivé? Ou plutôt, nous avons découvert nos vies potentielles?
J'ai encore gagné, Lousterin.
Non, je suis Rand Altor.
Verin s'ébroua pour s'éclaircir les idées et chercha le regard du jeune homme.
Tu t'étonnes que ta vie puisse être différente si tu fais d'autres choix? Ou si des événements divergents se produisent? Je n'y avais jamais réfléchi, mais... Bon, l'important est d'être ici. Même si c'est loin de correspondre à nos attentes.
Où sommes-nous?
Demanda Rand. La forêt du sanctuaire Tsofu avait disparu, remplacée par une plaine vallonnée. Une forêt se dressait cependant non loin de là, à l'ouest, et on apercevait aussi des collines. Quand les voyageurs s'étaient réunis autour de la pierre portail, le soleil brillait très haut dans le ciel. À présent, il sombrait à toute vitesse vers l'horizon occidental. Rand nota que les rares arbres étaient tout déplumés ou arboraient un feuillage mordoré. La brise qui soufflait de l'est, plutôt mordante, soulevait des colonnes de feuilles mortes.
« C'est la pointe de Toman, »
dit Verin.
Je reconnais la pierre portail. Rand, tu n'aurais pas dû tenter de nous y amener directement. J'ignore ce qui est arrivé, et je doute de le savoir un jour. Mais à voir les arbres, on devine que nous sommes à la fin de l'automne. Rand, nous n'avons pas gagné de temps. Bien au contraire. 4 mois, voilà ce qu'il nous a fallu pour arriver ici.
Mais je...
Tu vas devoir te laisser guider par moi. Je ne peux pas te former, mais, avec un peu de chance, je t'empêcherai de te tuer. Et de nous emporter avec toi, à cause de ton manque de contrôle. Et même si tu ne te suicides pas, si le dragon réincarné se consume comme une bougie, qui affrontera le ténébreux?
Lys Sedai n'attendit pas les protestations rituelles de Rand. Afin de les éviter, elle alla se camper devant Ingtar. L'officier sursauta quand elle lui tapota le bras.
« Je marche dans la lumière !»
s'écria-t-il, les yeux exorbités.
Je retrouverai le corps de Valère afin d'anéantir le pouvoir de Shaiol Ghul. J'en fais le serment.
Oui, oui,
fit Verin d'un ton apaisant. Elle prit entre ses mains le visage d'Ingtar. Sursautant, il s'arracha au cauchemar dans lequel il dérivait, mais dont les souvenirs le hanteraient longtemps, devina Rand.
Voilà, ce sera suffisant pour toi. Je vais voir ce que je peux faire pour les autres. Nous retrouvons peut-être le corps, mais notre chemin est semé de plus en plus d'obstacles.
Alors que Lys Sedai faisait le tour des hommes, s'arrêtant devant chacun, Rand alla rejoindre ses amis. Quand il voulut l'aider à se relever, Matt se débattit, puis le saisit par les pans de sa veste.
« Rand,
Je ne parlerai jamais à personne de... Je ne te trahirai jamais, tu m'entends? Il faut que tu me croies.
Le pauvre Matt semblait plus mal en point que jamais. Mais c'était surtout l'effet de la peur. Avec un peu de chance, en tout cas.
Je te crois.
Souffla Rand. Quelles existences avait vécu Matt, et qu'avait-il fait d'impardonnable? Il a dû me trahir, sinon ça ne l'obséderait pas ainsi. Rien qui fût à retenir contre Matt, cependant. En quoi était-il responsable des actes d'autres versions de lui-même? De plus, après certaines variantes de sa propre personne qu'il avait découvertes, Rand était mal placé pour juger.
Je te crois, Matt. Et toi, Perrine, ça va?
L'apprenti forgeron écarta enfin les mains de son visage. Rand vit des écorchures là où ses ongles s'étaient enfoncés dans sa peau.
« Nous n'avons pas tant de choix que ça, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, et quoi que nous fassions, certaines constantes demeurent. Où sommes-nous, Rand? Dans un de ces mondes dont vous parliez, Urine et toi?
Non. C'est la pointe de Toman, dans notre monde. D'après Verine, en tout cas. Et nous sommes en automne. »
Matt sursauta.
Comment est-ce? Non, je ne veux rien savoir. Mais comment trouver Fane et la dague à présent? Le colporteur peut être n'importe où.
Il est là,
assura Rand. Il espéra ne pas se tromper. En 4 mois, Fane avait eu le temps d'embarquer vers toute destination de son choix. Ou de chevaucher jusqu'à Chandemonde. Ou Tarvalon.
Lumière, fais qu'il ne se soit pas fatigué d'attendre. S'il a fait du mal à Egwen, ou à un de mes amis, au pays, je...
Lumière, j'ai tout fait pour arriver à temps.
Les villes de la pointe de Toman sont toutes à l'ouest d'ici,
dit Verine. Tous les voyageurs s'étaient relevés, à part Rand et ses amis. L'Aes Sedai approcha de Matt et lui imposa les mains tout en reprenant la parole.
Peu de villages sont assez grands pour mériter ce nom, mais si nous voulons retrouver les suppôts, c'est par là qu'il faut commencer. Et je propose que nous profitions des quelques heures de lumière qui nous restent.
Quand Matt se fut relevé, l'air un peu requinqué, Verine s'occupa de Perrine. Puis elle tendit les mains vers Rand, mais il bondit en arrière.
« Ne sois pas stupide.
Je ne veux pas de votre aide, ni de celle d'une autre Aes Sedai.
Si c'est ce que tu désires. »
Montant en selle, les cavaliers s'éloignèrent en direction de l'ouest. Malgré la fatigue, aucun n'avait protesté contre ce départ précipité, et Rand moins encore que les autres.
« Lumière, aide-moi à arriver à temps. »